Alors bonjour à tous, Arlette Farah sur les ondes de Radio Shalom et j'ai dans mon petit studio, croyez-le ou pas, Denis Coderre. Denis Coderre, bonjour.
Ça va bien? Oui, il est petit.
Il est petit, il est intime.
On l'aime, oui.
Il est intime, il faut dire ça comme ça. Donc, je ne le présente plus, Denis Coderre, notre peut-être futur maire de Montréal.
On y travaille.
Vous y travaillez dur. Alors, Denis Coderre, moi, je voudrais qu'on commence de façon assez amusante. Comme je sais que vous êtes habile avec un micro, je voudrais que vous soyez bien au micro. Vous êtes journaliste, vous rencontrez Denis Coderre. Quelle question aimeriez-vous lui poser là tout de suite?
Là tout de suite?
Oui.
À part comment ça va?
Ou
habitez-vous à Montréal? Pour voir si tu peux voter?
Non. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est une bonne chose. Vous aimeriez savoir quoi de lui?
Moi, je m'intéresse toujours aux gens avant tout. Alors, la première chose, c'est sachant devant qui je suis, je lui demande pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes intéressé aux gens? Pourquoi quelqu'un peut aller au-devant comme ça? Et pourquoi quand on rencontre les gens, pourquoi qu'on est appelé à aller naturellement vers les gens? Pourquoi vous aimez les gens?
Alors, réponse de Denis Coderre, pourquoi vous aimez les gens?
C'est mon énergie. Non, mais c'est vrai. Quand je me promène, puis je fais ça, c'est ma vie. C'est même pas une profession, c'est une passion. Je veux apprendre à connaître l'autre. On se définit par l'environnement dans lequel on vit. Je me promenais la semaine dernière, et puis de l'autre côté de la rue, il y avait un Tim Hortons, puis le monde criait « Venez me voir, venez me voir! » Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui est le fun aussi, c'est l'autodérision. Quand on voit quelqu'un qui peut être un peu une personnalité publique et puis qui, comme moi, peut aussi participer au festival Juste pour rire,
oui.
Fait des numéros et tout ça, c'est vraiment, il y a un terme anglais qui dit l'outreach, c'est de trouver une façon d'apprendre à connaître l'autre. Et puis quand t'es vraiment sur le terrain, ça te fait de toi une meilleure personne parce que t'as vraiment la sensibilité, la proximité, puis tu sens l'autre. Alors, tu vois un peu, ça te fait de toi une personne qui comprend mieux dans quel environnement tu vis.
C'est ça, parce qu'en fait, Denis Coderre, quand on le voit à la télé.
Bon, mais vous savez pourquoi je suis à la télévision souvent? C'est parce que je veux que mes enfants me reconnaissent quand j'arrive à la maison.
Beaucoup à la télé, beaucoup de partout. Et c'est vraiment Denis Coderre, quand on le voit comme ça, alors je ne parle pas de l'homme politique,
non, mais je parle
de l'homme en général. Quand on le voit comme ça, on a un élan de sympathie. C'est quelqu'un avec qui ben, on a envie de boire un café, on a envie de parler, de discuter, de savoir qui il est, comment ça se passe pour lui dans la vie. Alors, je sais que dans sa vie politique, son épouse a déclaré qu'il n'y avait pas de squelette dans le placard. Donc,
il y avait beaucoup de linge. Bon, message.
Je ne peux pas trouver des squelettes. Mais qu'est-ce qui amène quelqu'un de la région de Joliette? D'ailleurs, j'ai visité, c'est super joli.
C'est un beau petit coin. Hein?
Oui, c'est un beau petit coin.
Festival de la Naudière.
Oui, j'y ai assisté.
Sol de musique.
Magnifique. Donc, qui vient de là, qu'est-ce qui donne le goût de la politique?
J'ai toutes sortes de mémoires, d'anecdotes en tête. Moi, j'ai des parents fantastiques qui ont toujours eu le souci de l'autre. Mon père était un peu le coq du village, j'étais l'organisateur du maire à l'époque, et puis il m'avait emmené à un moment donné... Hôtel de Ville, c'est un grand mot, dans la salle communautaire. Et ça se battait littéralement. Puis je pense qu'on se garochait littéralement les chaises à un moment donné. En tout cas, comme on dit chez nous, on pète une coche. Et j'ai dit à mon père, je veux faire ça plus tard. Je trouvais ça le fun. Mais c'était... J'ai vécu une série de moments avec mes parents qui m'ont amené à apprendre et à aimer à connaître l'autre. Chez nous, on avait, par exemple, une station d'essence. Là-bas, c'était pas du libre-service à l'époque. Il y avait du service. Donc, oui. Le pompiste venait, il mettait de l'essence dans la voiture. Et mon père débarquait toujours. Puis, j'osais avec l'autre. Je dis, pourquoi tu fais ça? Ah, il dit, ça, c'est important. Il n'y a pas de saut métier. C'est un service. Et puis, c'est pas toujours facile. Puis, c'est important de savoir comment il va. Évidemment, on était dans un petit village qui s'appelle Saint-Alphonse. Tout le monde se connaît ou se reconnaît. Et puis, dans le fond, mon père, il allait soit à l'épicerie du coin ou au magasin général pour boire son coke traditionnel, mais c'était pour aller chez des nouvelles. Alors déjà, il y avait le sens de savoir qu'est-ce qui se passait, puis le pompisme, ça complétait, ça l'infirmait ou ça confirmait les derniers mémérages qu'il y avait dans le village. Mais c'est, cette approche-là m'a aidé beaucoup. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu quand même, en première année, remarqué qu'à la maternelle, il y avait une sœur Monique, et j'avais déjà été nommé président de la classe. J'ai commencé jeune. Personne ne voulait un job, alors je suis devenu président de classe.
Donc déjà, ça a commencé petit quand vous étiez
petit,
en classe.
Mais en première année, j'avais un professeur extraordinaire qui s'appelait Mademoiselle Arbault, qui était dure, qui était très, mais très juste. Et à un moment donné, il n'y avait pas de Ritalin dans le temps. J'étais un hyperactif. Déjà, je le suis, vous le voyez, vous m'entendez. Je ne prends pas plus de Ritalin. Et elle m'a demandé de faire un poème en classe devant le monde, parce qu'elle avait remarqué que j'aimais ça parler, puis j'aimais ça parler devant le monde. Mon père, qui est un menuisier, donc très habile de ses mains, avec le cœur sur la main, m'avait bâti un petit estrade de bois. En fait, c'était deux escaliers que tu collais, ça faisait une estrade
avec
un train de bois. Et finalement, on s'en est servi pendant toute l'année, mais là, on m'a demandé de faire un poème. Et j'ai fait un discours. C'était un problème de ballon-point à l'école, l'espace vert, déjà.
Déjà comme ça?
En première année, comme ça. Genre, il manque de ballon-point, en tout cas. Et elle m'a demandé d'en faire un par semaine.
Ah bon?
Donc, ça m'a initié, d'une certaine façon, à leur oratoire, mais elle canalisait mon énergie en me permettant de parler aux autres. Et on avait un sujet différent. Le poète en moi n'est pas très fort, là, mais ce petit laïus...
L'orateur était là.
Sortait, voilà. Et puis évidemment, moi, comme catholique pratiquant, dans les petits villages, on était catholique pratiquant, et je servais la messe, et il me faisait faire la lecture à l'église. Alors, ça me permettait, d'une certaine façon, quand tu mets tout ça ensemble, là, tu dis, OK, je comprends pourquoi que j'aimais parler devant le monde. D'ailleurs, l'autre anecdote, c'est que le curé est un codaire. C'était des parents lointains, c'était pas parents, mais lui m'a aussi initié à leur oratoire. J'avais ma grand-mère qui avait eu le premier téléphone au village, alors vous imaginez, même un ring au carré. Alors, demandez-vous pas pourquoi j'aime parler, en tout cas, j'avais les outils pour le faire.
Est-ce que vous trouvez que les choses s'assemblent, est-ce que vous croyez au hasard ou est-ce que vous pensez que les choses s'assemblent pour vous ouvrir des portes et que amène?
Je crois au destin, mais je crois qu'on fait notre chance. Je pense que... Évidemment, on juge une maison son solage. La fondation est importante, les valeurs. Mais évidemment, à un moment donné, on te donne un bagage. Il faut que tu voyages par toi-même. Mais non, c'est un mélange de... Je crois au grand livre, hein, quelque part. Mais je crois aussi que, comme dirait Thomas Edison, même Jean Drapeau l'a repris, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Donc, il faut travailler. Et... tu fais ta chance. Moi, j'ai fils de menuisier très fier, mais j'ai jamais attendu qu'on me donne quelque chose. Je suis allé le chercher. Donc, j'ai travaillé, j'ai trimé dur. Je suis un gars de terrain qui est devenu ce qui est devenu à la sueur de son front.
Bravo. Est-ce que Denis Coderre a eu envie, quand il était petit, de suivre les traces de son papa? Ça rime, ça aussi?
Oui.
Parce que c'est beau de travailler le bois.
Je voulais être pompier, alors... Je sais pas, des fois, les policiers allument des feux plutôt que les éteindre. J'ai mal reviré.
Vous vouliez faire les deux?
Je sais pas. J'aimais le rouge à l'époque. Ça devait avoir une nuance là-dedans, mais c'était pas communiste. Non, je voulais être pompier. À un moment donné, on avait toutes sortes de projets. Hein. J'avais mes cousins qui j'étais très proche. Et puis, à un moment donné, on a dit, bon, on va se bâtir un garage. J'étais déjà multifonctionnel, là. Mais très jeune, d'ailleurs, à 15 ans, j'ai gagné un concours d'oratoire. Et c'était malgré ma jeunesse, je prévois. Et c'était de devenir politicien. Alors déjà, je faisais des discours, j'étais président de classe avec tout ça.
C'est extraordinaire, je ne savais pas que vous étiez si... que c'était si présent en vous depuis votre plus jeune âge.
Tu sais, c'est comme le film City Slickers, il y a une chose qui est importante dans la vie, puis c'est à toi de la découvrir. Jack Palance, le grand Jack Palance. Et moi, dès mon jeune âge, je savais que je voulais donner une voix à ceux qui n'en avaient pas ou ceux qui en avaient moins. J'ai eu un petit moment astronome amateur, peut-être dans la Lune. Mais non, j'ai toujours voulu servir l'autre.
Vous étiez défenseur des faibles et des orphelins à l'école?
Ah, beaucoup.
beaucoup.
J'étais pas fort, mais j'étais fort en gueule. Alors,
Vous l'êtes resté, si je puis me permettre.
Pardon?
Vous l'êtes resté, si je puis me permettre.
Beaucoup, beaucoup. Oh oui, non, mais c'est important. La bouche est un muscle.
Que vous faites bien travailler.
Je suis un athlète de ce côté-là. Mais non, c'est important. C'est important pour moi d'avoir cette capacité de s'exprimer. Et j'ai toujours vaincu l'injustice. Moi, là, l'injustice, l'intolérance, quand quelqu'un, même si j'étais pas gros, il m'appelait le boxeur quand j'étais jeune, j'étais pas un gros batailleur, mais j'étais quelqu'un là, qui défendait, là, qui allait au bâton, là, qui allait vraiment dans la première ligne de feu. J'ai toujours été comme ça.
Alors, je veux revenir juste deux petites secondes, je vais effleurer la politique, mais c'est une question personnelle que je vous pose, mais est-ce que vous croyez, quand on voit tout ce qui se passe dans la politique, que ces valeurs-là peuvent y rentrer sans être un petit peu tordu?
Non, mais il y a des gens, il y a l'adage qui dit le pouvoir corrompt, etc., etc. Moi, il n'y a rien de plus noble que d'avoir la confiance des gens. Et on peut tomber, évidemment, dans un cynisme trop souvent, avec raison. Mais je vous dis, d'un autre côté, et puis vous avez voyagé aussi comme moi, quand on regarde dans le monde, et la démocratie, c'est fragile.
Oui,
et il faut protéger, il faut le protéger. Moi, à cause probablement de cette passion-là, j'ai toujours voulu combattre ça. Alors, c'est sûr, on est l'objet de tous les colibets, et quand on a un peu coloré, puis on est en avant de la parade tout le temps, évidemment, tu deviens une cible, mais...
Évidemment.
Moi, c'est l'amour et l'affection des gens. Il le fait, on n'est pas toujours de bonne humeur, mais c'est cette énergie-là qui m'a toujours forcé à continuer. Puis il y a une belle affection quand tu as une relation privilégiée avec la population.
Les gens vous arrêtent dans la rue?
Toujours, oui. Des chauffeurs de taxi baissent la vitre, tout le monde arrête.
Ils vous invitent à boire un café, ils vont...
pour ça que je suis hyper actif, j'ai trop de caféine dans le sang. Ça dépend des communautés, avec les Italiens, là, quand c'est la semaine de la grappa,
ah, oui.
Ben, viens essayer mon vin. Ah là, écoute.
Ah ben la semaine de la grappa, à mon avis, vous ne pouvez pas en faire beaucoup, vous
ne
pouvez pas en faire tous les jours parce que...
On délègue le droit de boire.
Mais vous aimez Montréal et vous aimez cette ville multiculturelle.
Oui.
Qui est
j'ai eu le privilège parce que j'ai un père, mais j'ai un père politique qui s'appelle Jean Chrétien. Je me rappelais le monsieur Chrétien qui on se parlait souvent. C'était un peu une relation presque filiale. Il m'appelait son fils politique. Et après les événements du 11 septembre, on reçoit des téléphones et puis il m'a offert le poste de ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.
Oui.
Et dans le fond, il me demandait de conserver nos valeurs, de travailler pour s'assurer qu'on combatte l'intolérance. Et puis, de tous ces événements-là ont fait de moi que j'ai toujours été, parce que je reste à Montréal-Nord depuis 40 ans, sensible à l'autre et aux communautés, très proche de l'ensemble des communautés. Et puis, on fait sa chance, mais il y a aussi quelqu'un qui peut, sans le feu jaillir d'une allumette. Il était un peu mon allumeur, ma bougie d'allumage qui m'a permis de faire ça.
Eh bien, que vous dire que ce texte est doux à mes oreilles.
Bon, hein?
J'espère le voir. Alors là, on va faire une petite pause de publicité, Denis Coderre, et puis on revient tout de suite. Alors voilà, nous revoici avec Denis Coderre en deuxième partie.
On parle même pendant la publicité.
On parle même pendant la publicité, c'est vrai, il faut le dire. Mais on ne vous racontera pas.
Non.
Denis Coderre, qu'est-ce que vous aimez culturellement? Moi, personnellement, je suis une fan de théâtre aussi. Est-ce que vous aimez le théâtre? Est-ce que vous
J'adore le théâtre. J'ai vu la dernière pièce avec Patrice Robitaille et Hélène Bourgeois-Leclerc.
Oui.
C'est le Vison.
Oui, je ne l'ai plus en...
Ça va pas bien, mon affaire.
Mais
c'était à l'ouverture de Jean Duceppe. Oui. C'était magnifique. Mais je suis très cinéma.
Vous êtes très cinéma.
Je pense que si j'aurais à suivre une thérapie, là, je suis compulsif au cinéma. Oui, j'ai une collection de plus de 3500 DVD.
Cinéma international?
Tout, je regarde tout. Je suis très sensible à la musique, je suis très sensible à la musique de film, je suis très sensible au cinéma comme tel. Je peux voir le même film 3 fois pour des raisons différentes, le casting, la photographie, la musique, l'ensemble.
Alors, il y a des festivals ici à Montréal qu'il faut...
Il faudrait revamper ça un peu quand même.
Oui.
Hein?
Oui, il faut revamper, mais il faut les garder, quoi. Parce qu'il y a des festivals, il y a des choses qui se passent au théâtre, au cinéma, en musique. C'est... Montréal est une ville, enfin, j'avais dit, on parle pas politique,
non,
c'est
mais
pas
Montréal
ça, mais
est une métropole
est une
culturelle.
Ville culturelle, extrêmement culturelle. Il faut vraiment garder ça et pas couper dans...
Non. Il faut d'ailleurs investir,
faut
parce que non
investir.
Seulement c'est une industrie, mais un peuple qui néglige sa culture néglige son âme. Alors, ça fait partie de notre identité. Et on a un cinéma québécois extraordinaire. On apprend que Gabriel va représenter le Canada encore une fois pour les Oscars, pour le meilleur film étranger. Vous vous rendez compte, c'est le troisième film québécois en quatre ans.
Oui. Ah, mais oui, mais il y a un talent de folie ici au Québec.
Oui, oui.
Pour les
films. C'est une belle folie.
Ah oui, c'est une belle folie. Bien sûr. Ils ont beaucoup de talent.
Juste en termes d'audiovisuel, vous avez 500 entreprises. Ça représente des dizaines de milliers d'emplois. Un impact de plusieurs centaines de millions. Donc, c'est vivant. La culture, c'est aussi une industrie, c'est pas juste un luxe, c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, qui nous définit, mais qui a un impact énorme. Et puis, autant évidemment, il y a le cinéma canadien dans son ensemble, mais le Québec a cette façon. Vous savez, Montréal, c'est une ville européenne dans un contexte nord-américain.
Oui,
on a le meilleur des deux. Alors, vous voyez Denis Villeneuve avec Prisoners, vous avez vu Starbuck avec, avec Scott, qui est repris par la gang à Spielberg. C'est quelque chose, là.
Mais oui, c'est quelque chose.
On nous reprend.
Moi, je trouve ça formidable. Et puis, ce que je trouve formidable en tant que Française, quand je suis arrivée ici, c'est de voir le nombre de festivals, le nombre de choses gratuites aussi, auxquelles tout le monde peut assister. Mm-hmm. Ça, c'est fantastique.
Ça veut dire
c'est un cadeau. Ça,
démocratiser la culture, c'est la rendre accessible. Ouais. Et c'est pas juste au niveau du centre. C'est que dans l'ensemble des quartiers, vous avez tout plein de petits festivals. Et notre diversité culturelle, notre dualité linguistique, notre caractère francophone comme métropole, tout ça, c'est une plus-value exceptionnelle qui fait en sorte que vous avez un choc des idées qui provoque un environnement magnifique. Alors, vous avez des gens, comme j'étais au Mont-Royal cet été-là, et il y avait Shakespeare in the Park. Avoir une pièce de Shakespeare. Alors, on est assis sur...
c'est fantastique.
Non, mais écoutez, puis là, on entend les oiseaux et tout ça en même temps. Écoutez,
c'est extraordinaire. Au Jardin La Fontaine aussi, il y a des choses... C'est ça qui est beau, c'est toute cette culture dans Montréal. Moi, je suis en admiration devant.
Oui.
Parce qu'on peut profiter de tout, vraiment de tout. Alors, pour vous faire rire sur autre chose, Denis Coderre, j'ai vu que, astrologiquement parlant...
Ah, je suis un lion.
Vous étiez un lion.
Oui.
On appelle ça dans l'astrologie un lion superbe et généreux. Est-ce ainsi que vous vous définissez?
Généreux, superbe, ça dépend des jours. Ça dépend contre qui. Je graffine et je mords. Voyez ça, vous? Non, personne ne croit à l'astrologie, mais on regarde tout notre horoscope le matin.
C'est-à-dire que, non, attends, il y a une différence. L'astrologie est une science. Maintenant qu'elle soit diluée dans plein de petites choses qui n'ont aucune importance, ça c'est autre chose. Mais je crois à la science de départ.
Je vais analyser, mesdames et messieurs. Le lion en moi.
Denis Coderre n'est pas sur le divan, mais
non.
Bientôt pour lui.
Mais on s'étend sur le sujet.
Bien trouvé. Alors, parlez-moi un petit peu de votre famille.
J'ai des enfants magnifiques, une femme qui a le sens du sacrifice qui fait légion.
Excusez-moi de vous couper, que votre fils vous a dit que vous
étiez
votre porte-bonheur. J'ai beaucoup aimé le...
C'est mon bout en train, lui. Il veut faire de la télévision, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi.
Mais... Oh ben... Franchement, vous vous posez la question sincèrement?
Pas du tout. Il est drôle. Ma fille a un sens civique exceptionnel. Elle a un don de soi. Les deux sont très sociables. Dès l'âge de 12 ans, il faisait beaucoup de bénévolat dans la réinsertion sociale et tout ça. Non, je suis très, très, très fier d'eux. Évidemment, ça n'a pas été facile pour Chantal, mon épouse, non plus. D'ailleurs, l'anecdote, ma femme s'appelle Chantal Renaud.
Oui.
Comme la femme de Bernard Landry. Alors, à un moment donné, il faut que je vous raconte, on est dans un souper populaire dans le bout de Thetford Mines. Alors, c'est un souper spaghetti, il y a plus de 500 personnes. Il y a une fébrilité exceptionnelle, le monde s'acclie, ça applaudit. Je suis là comme ministre. Et je dis à l'Assemblée, j'aimerais vous présenter, là on est dans un party de Parti libéral du Canada, là. J'aimerais vous présenter mon épouse Chantal Renaud. Il y a eu un silence. J'ai dit, non, elle fait pas de film, elle, c'est pas la même, là, c'est une autre. Là, ils sont partis à rire. Et à un moment donné, on va dans un événement d'art lyrique, et puis Bernard qui vient de Saint-Jacques. Moi, je viens de Joliette, lui vient de Saint-Jacques. Donc, on est des Lanaudois tous les deux. Et puis, je lui présente mon épouse. Lui était avec sa Chantal, j'étais avec la mienne. Alors, regardez, là, parlez-vous, rencontrez-vous, là. C'est fait, voilà. Mais Chantal, sinon, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est pas évident, là, de marier une passion.
Non. Non, c'est ça que j'allais vous demander, parce que je trouve ça difficile de pouvoir accompagner quelqu'un qui est...
D'ailleurs, on a vécu une séparation, on est revenu ensemble par la suite. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, même de revenir par la suite, là, c'est pas toujours évident,
mais au moins,
c'est pour le meilleur et pour le pire.
Ça permet de savoir ce qui s'est passé, puis d'aller au-delà de ça. Donc,
oui,
c'est déjà l'important. Est-ce qu'elle est native de chez vous?
Non, parce que on était totalement tous parents. J'en ai choisi une de Montréal. Non,
vous aviez déjà des vues sur Montréal?
J'étais déjà Montréalais, mais oui. Donc, j'ai déménagé à 10 ans, alors il fallait suivre un peu. Hein. Et donc, j'ai 50 ans, vous avez mon âge.
Oui. Ah oui, oui,
je donne plein d'informations, mon astrologie à la fin.
Je sais des choses sur vous, c'est pour ça que j'ai dit... Mais de toute façon, vous vous moquez de l'astrologie, mais sachez qu'en étant Lion, c'est quelqu'un qui aime... être à l'avant de la scène.
Ah, mais oui.
Ah, c'est une personnalité qui aime être à l'avant de la scène. Et quand vous voyez ce que vous faites, excusez-moi, mais vous allez arriver, à croire que l'astrologie est une vraie science, vous allez voir. Alors, si on enlevait, peut-on enlever cette passion qui est en vous? Non. Mais en admettant qu'on oublie ça, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire d'autre?
Du cinéma. En avant et derrière la caméra. C'est vraiment une passion. C'est vraiment, vraiment une passion. J'ai eu le bonheur de faire aussi quelques numéros avec, pendant le gala Juste pour rire avec Éric Salvaille. Oui. Et puis, je me rappelle, aussi en secondaire 5, j'avais fait théâtre, français théâtre. On avait fait une pièce, Antigone chie à son anneau et de Barbeau. Ça a été vraiment magnifique. Puis, non, c'est clair, probablement acteur, je le suis peut-être un peu déjà, mais.
Comment vous dire?
Toute
oui?
La classe, oui, pas mal. Mais
mal.
Non, faire un film, un road movie, là, ça vient me chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aurais aimé ça. Évidemment, j'ai fait de la radio pendant 3 ans. J'étais animateur radio où je fais pas d'ulcère parce que je laissais aller mes émotions. Hein? Je les mange un peu, mais ça, c'est une autre histoire. Et. La communication, évidemment, m'intéresse. Donc, c'est sûr qu'un des plus beaux médiums, c'est la radio. Et surtout qu'au Québec, on a aussi cette mémoire auditive. J'ai fait de la radio entre 90 et 93. Les gens m'en parlent encore, on s'en rappelle. Et vraiment... Là,
je n'étais pas encore là.
Non, vous avez manqué quelque chose.
Je vous enverrai les archives.
Non, c'était... J'étais avec Jean-Pierre Charbonneau, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui, en 90, revenait d'une aventure peu enviable au Rwanda, parce qu'il a dû quitter avec le début du génocide. Et on a fait de la radio, mais lui, il était écrit. Lui, c'est un journaliste écrit. Moi, évidemment, j'ai plus la gueule. Et j'ai le sens du one punch line. Et on voulait reprendre. Il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Face à Face, entre un fédéralisme et un souverainisme. Puis bon, alors on a repris ça. Et puis, ça a été des années aussi exceptionnelles. Alors, c'est clair que ou bien on va dans les médias, ou bien mais le cinéma, ça m'intéresse.
Et si le cinéma vous avait appelé quand vous étiez au début dans la politique, est-ce que vous auriez pu faire une petite incursion?
On me l'a offert. On m'a offert de faire un peu un caméo. Je vais probablement le faire comme maire. J'ai toujours participé. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors, comme député, là, évidemment, c'est pas les gens, les bien-pensants disent ça n'a pas de bon sens. Là, il faut que tu te gardes une petite gêne. Non.
Pourquoi? Vous êtes un homme public, mais vous êtes un homme, donc vous pouvez très bien aller dans ce que vous aimez.
Tout à fait. Et puis, ça me sert bien. Parce que je fais ce que j'aime, et puis ce sens d'autodérision, à mon avis, me définit. Alors, pourquoi l'authenticité. C'est ce que les gens veulent, alors.
Si vous êtes un passionné de cinéma, entre autres, moi qui suis une fan de culture...
Je suis maniaque de Philippe Noiret aussi.
Oh,
la fille de D'Artagnan, quand même. Hein?
Oui, ah oui, oui. Quel homme fantastique. Quel homme fantastique, c'était un acteur et un homme aussi fantastique à rencontrer. Mais oui, si vous êtes tout ça, puisque vous êtes tout ça, je veux dire, ça va servir aussi pour la culture de la ville.
Oui.
Parce que c'est
d'ailleurs,
c'est quelque chose de très important.
On a une plateforme qui va être extrêmement importante. Et puis, la culture, ça nous définit, c'est important. Il y a la question du patrimoine, il y a la question du design urbain. Donc, tout le développement urbain, ça fait partie de la culture. On est une ville de créativité. Et moi, je veux évidemment mettre tout à mon pouvoir pour qu'on crée cet environnement de créativité. Alors, un facilitateur, un catalyseur. Et c'est clair que Montréal est une métropole culturelle et notre rôle, c'est justement de créer l'environnement propice à ce que ça puisse non seulement continuer, mais qu'on puisse en faire davantage.
Alors, si vous devenez maire, vous allez être au musée Grévin?
Oh, la cire me va pas très bien. Je me vois mal. Bref, ben, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Bof, oui.
Mais non, mais parce que Montréal, on en parle parce qu'il y a tellement de choses. Quand on s'arrête, je veux dire, on aime le Québec.
J'ai déjà ma caricature avec Gérard Delaflin.
Oui, mais une caricature, c'est pas pareil.
C'est un honneur, quand même.
C'est un honneur, bien sûr.
Oui, ah,
ben, bien sûr. Être caricaturé, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'œil qu'on a sur Montréal, qui est une ville extrêmement culturelle, il y a tellement de choses à voir. Que les gens qui viennent pour un court temps, et j'en sais quelque chose, des gens qui peuvent venir de la France, peuvent se contenter de visiter Montréal. Il y a tellement de choses à voir et à faire ici.
Ah ouais, il y a plein de musées, il y a plein d'activités, il y a plein de beaux quartiers. Oui. La gastronomie est culturelle, c'est une joie de vivre.
On fait le tour du monde en mangeant
ici. Ah oui, tout à fait. Ça explique mon excès de poids. J'étais pas ministre de l'immigration à l'époque, j'étais ministre de la gastronomie.
Est-ce que vous aimez les restaurants? Vous aimez le bon vin?
Ah, j'aime tout ce qui est comestible. Je suis pas très vin, j'en bois un peu. Je suis très plat.
Ah, c'est ça.
J'aime la France quand même.
Alors là, écoutez-vous, vous me décevez au dernier moment parce que ne pas aimer un très bon vin avec un bon repas, ça me gêne un peu de Nicodère. Ah, mais je vais vite effacer la tâche.
Je vous aime quand même. On coupera au montage.
On coupera rien du tout. On saura que vous n'aimez pas le vin et que j'aime pas ça. Alors écoutez, Denis Coderre, on arrive à la fin. Ça a été un très bon moment pour moi. Oui, ça passe vite, demi-heure. C'était très gentil d'avoir répondu à l'appel. Alors écoutez, je vous souhaite le meilleur et puis merci. Et puis on espère vous revoir.
Et allez voter. Il faut que tout le monde aille voter.
Mais bien sûr, évidemment.
Voilà.
Pour tout. Alors, bonne chance.
Merci.
Je ne vous dis pas le mot de Cambronne,
non,
mais je le pense.
Oui, c'est bien. C'est un grand général.
Oui, c'est un grand général.
Napoléon était content de l'avoir à côté de lui.
C'est sûr. Au revoir.
Au revoir.